Est-ce que le porte-parole du futur, peut-être, parti qui va diriger le Québec, le porte-parole en économie, va parler? Est-ce qu'il a parlé? Gabriel Coulombe, OK, il a son bac intégré en économie et politique à Laval, une maîtrise études internationales. À l'emploi du Cégep Garneau depuis 2016, il enseigne l'économie. Il a fait des études au Venezuela. Oh là là! Le Venezuela.
On connaît ça.
Le Pérou, l'Angleterre et le Brésil. Donc, il connaît ça. Il connaît, j'imagine, surtout ce qu'il ne faut pas faire. J'aimerais ça l'entendre là-dessus, ce qu'il a vécu. Peut-être une bonne dénonciation ferme. Quelque chose que son collègue Alex Boissonneau n'a pas fait. Mais je le sais que c'est l'ancien Alex qui a changé depuis qu'il est retourné à Nartabasca. Je te dis, il est transformé, c'est l'enfer. L'enfer. C'est de la droite pure. Donc, lui, il n'est pas député, mais il va se présenter, j'imagine. Il est appelé régulièrement à commenter l'actualité dans les médias, dit-on. Et c'est l'ancien attaché de presse du député de Laval-des-Rapides, Léo Bureau-Bloin, LBB. Donc, on y souhaite bonne chance. Le Véné, il a étudié au Véné, donc il doit savoir, j'imagine, de quoi il en retourne. La dictature cubaine, une couple de chiffres, avant de faire la pause, puis après ça, on fera une ouverte.
Ah, ben, juste avant, c'est pas des chiffres.
Yeah.
C'est 8 millions environ, là, c'est quasiment ça, 8 millions de Vénézuéliens qui ont quitté le pays sous Chavez, mais encore plus Maduro. Là. Chavez, ça y allait à coût de 400, 500 000 par année. Puis quand Maduro est arrivé, ça a monté jusqu'à 1,6 million. De Vénézuéliens qui quittaient par année, entre autres, juste pour survivre, là, tout simplement. Puis j'essaie de retrouver le chiffre aussi qui sont partis. Là. Je pense qu'il y en a 700, 800 000, quelque chose comme ça, qui sont allés aux États-Unis. Mais c'est beaucoup la Colombie qui en ont reçu quelque chose comme 2, quelques millions. Là. La crise migratoire en Amérique du Sud a beaucoup été créée par les déboires du Venezuela. Là.
Oui.
Ça a comme eu un effet domino après ça par la suite, parce que les Vénézuéliens plus importants dans un pays faisaient qu'il y avait peut-être des problèmes, de la famine qui se créait dans ce pays-là. Tu avais des gens qui quittaient après ça vers d'autres pays, qui montaient éventuellement par le Mexique, vers le Mexique puis vers les États-Unis. Là.
Quand vous prenez la carte de l'Amérique du Sud, tout le côté en haut à l'ouest, ben c'est la Bolivie, Pérou, Équateur, Colombie, Véné. Venezuela, juste en dessous de Cuba. Venezuela qui est à la pointe en haut de l'Amérique du Sud. Donc, quand vous dites « Ouais, cocaïne, c'est pas si pire au Véné. » Ouais, OK. 60-65%, c'est la Colombie, la part de la production mondiale. Le Pérou, 25%. Tu sais, prends 65. 65 plus 25, d'après moi, on est pas mal dans le 90.
Shit.
Puis t'as la Bolivie qui arrive pour compléter la tarte. Fait que t'as les trois pays. Les trois pays, Colombie, Pérou, Bolivie, c'est 100% de la coke en Amérique latine. Boum! Donc, Bolivie, Pérou, Colombie, la route passe par là et la route de transit par la suite de la coke, c'est le Véné vers l'Europe, vers les États-Unis aussi. Vers les États-Unis, tu as la Colombie avec un littoral direct qui t'amène vers la Floride. Mais la grosse route, si on parle de l'Europe et de l'autre bord, là, on dit l'Europe, mais ça peut être la Turquie aussi, ça peut être la Russie, c'est de l'autre bord, vers le Maghreb aussi, mais c'est le Venezuela. Donc, quand on dit « Ah, Maduro, t'as pas si pire », ouais, mais la route de la coke, Bolivie, Pérou, on prend un petit peu de poudre, on en prend pas mal, finalement, en Colombie, 65%. Véné. Donc, le Véné est directement concerné lorsqu'on regarde le trafic de drogue dans l'Amérique centrale, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Amérique du Nord, c'est le Mexique. Puis, t'as une ligne de coke. C'est le cas de le dire. Je vois le graphique ici. Là, t'as une ligne de la coke qui part de Bolivie, Pérou, Colombie, Mexique. Ça arrive au Texas. Mais l'autre ligne, c'est Colombie direct vers la Floride par le littoral. Mais vers l'Europe, ça passe par le Véné. Alors voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi en passant? Ah oui, peut-être une couple de choses, puis ensuite, on va faire une petite ligne ouverte en revenant. 88-670-9098. Appelez Max, puis ils vont vous mettre en ligne. On va prendre juste votre prénom, comme d'habitude, avec votre provenance. Là. Moi, je viens de Boischâtel. Mon nom, c'est Mario. Blablabla. Bla, bla. On va parler du début d'année. Là. C'est assez rock'n'roll, ce qui se passe. Mais je veux vous entendre là-dessus. Puis je veux vous entendre sur comment vous entrevoyez l'année aussi. C'est la première fois qu'on se parle. Puis on va se parler ce matin, en ce mardi, à 9h32. Je veux finir avec des chiffres. Donc, dictature cubaine, prisonnier politique. Prisonnier politique, là, t'es un blogueur. T'es quelqu'un qui est... quelqu'un qui s'oppose au régime, quelqu'un qui veut une meilleure qualité de vie. Bien souvent, c'est pas un gros élément subversif, là. Avec des armes et tout, là. T'as une opinion différente. 1100 personnes dans les prisons parce que tu penses que le régime fait défaut. Et tu l'as exprimé. Immigration massive, 4% de la population en 2 ans, Adam, jusqu'en 2023. Il y a du monde. Ouais. Tony nous en parlait hier, là, il y a du monde qui quitte et qui vont quitter de plus en plus. Pénurie d'économique, inflation, médicaments manquants, on en a parlé hier. Prisonniers politiques, j'en ai parlé. Les manifs, après les manifs de juillet 2021, près de 500 condamnations définitives ont été prononcées avec des peines allant jusqu'à 25 ans. Est-ce que la gauche en parle de ça? Quand est-ce qu'il y a des manifs de gauche pour pleurer sur un tel qui est emprisonné par la gang de crottés, de castristes jusqu'à 25 ans pour avoir parlé? La presse est contrôlée par le Parti communiste. Des militants indépendants comme Yoani Sanchez sont surveillés. Inflation 30 %. 70 % des médicaments essentiels manquent à Cuba dans les pharmacies. Entre 500 000 et 700 000 personnes ont fui le pays en 2 ans, surtout aux États-Unis. Un système contrôlé, rappelons-le, par le Parti communiste cubain, Miguel Díaz-Canel, président, réélu avec combien d'hommes en 2023? Et on va se laisser là-dessus pour la pause.
97 %?
Oui, carrément. T'es carrément là. 97,66 %.
Faut quand même laisser une apparence de démocratie.
C'est épouvantable.
Il y a un 2-3 % d'opposants.
Est-ce que Léopold Lauzon va s'expliquer sur son amour de Cuba? Est-ce qu'il va le faire à un moment donné?
Ben, tu sais, l'excuse toujours, puis je l'ai entendu beaucoup dans les derniers jours concernant le Venezuela, la déroute du pays, c'est de la faute des États-Unis.
C'est toujours la faute des États-Unis.
Oh oui.
Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, avant d'aller à la pause, peut-être, t'attends-tu de résumer, en gros, ce que tu as découvert sur Boissonneau?
Mais là aussi, juste savoir ce que tu as demandé à Max, tu le veux quand? Mais
il l'a-tu trouvé?
Oui, oui.
Oh! Bon, on peut aller là-dessus.
OK.
Est-ce qu'il te l'a mis en...
Je l'ai. Je peux te faire jouer ça.
Résumons, c'est une vieille histoire. Donc, si j'ai pas tous les détails et tous les souvenirs, c'est lors de la mort d'Hugo Chavez. J'étais à Radio X, animateur... avec Jean-Claude, je crois, oui. Et on avait entendu un délire provenant de Montréal. C'est le fils de Falardeau, je crois, qui avait dit « Je pleure mon père ». C'est comme si j'avais perdu mon père. Je trouvais ça chaussé en sacrifice, pour vrai, là. Pour vrai, là. T'sais, n'importe qui mourrait, je pourrais pas dire ça. Mm-hmm. C'est comme si je pleurais mon père, tu sais. Nos parents, c'est comme...
Surtout qu'il avait perdu son père, pour vrai, à ce moment-là.
Je pense à ce moment-là.
Je pense que je pense qu'il était décédé.
Mais Hugo Chavez, c'est comme mon père. Je trouvais ça ultra saucé. On l'avait ramassé en onde, puis il m'avait ramassé en retour en souhaitant que je me suicide. C'était pas un beau souvenir, ça. Et je pense qu'on peut se permettre de l'écouter.
Je l'ai en deux extraits.
Merci, Max.
Voici.
J'allais pas très croyant encore qu'il allait peut-être s'en remettre et tout. Peut-être que j'étais naïf. Puis finalement, j'ai eu la nouvelle vers 5 heures. Puis là, il y a une couple de personnes qui ont commencé à m'envoyer des témoignages de condoléances, comme si j'avais perdu un proche. Je l'aimais bien, ça m'a fait de la peine, ça m'a attristé. J'avais l'impression que ce gars-là, c'est comme si j'aurais pu le recevoir. C'est comme si c'était un grand-père, tu sais, j'aurais pu le recevoir à dîner. Puis ça me rend émotif, écoutez.
Moi, j'avais capoté quand j'avais entendu ça. Et je ne sais pas si Jean-Claude a fait un montage ou c'était juste un extrait.
Et là, ça t'avait amené à ça, excuse. Oui.
Puis Moret, ben écoute, je sais pas trop comment je pourrais dire ça. J'y conseillerais de se poignarder lui-même quelques fois dans le dos, puis jette-toi d'un viaduc, peut-être. Puis ton faire-valoir, écoute, j'espère que ce sera pas mal interprété ou qu'on prendra pas mes propos. Mais vous êtes des petits minables.
Ah, ben coudonc! Donc, j'ai essayé son conseil, puis ça n'a pas marché.
Non? OK.
Méchant minable. Méchant minable.
Ben, c'est...
Méchant loser. Oh, wow! Wow! Surtout avec ce qu'on sait de l'héritage Chavez et de l'héritage Maduro. Puis on va finir avec notre champion du monde. Oui, oui, il y aura bien sûr une opération de nettoyage, j'imagine, du PQ dans les prochaines heures. Il a écrit ça sous le couvert de l'émotion. C'était à l'époque, bien entendu. On n'était pas au courant de tout. Hein? Oui.
Oui, mais il n'y a pas vraiment d'émotion, je te dirais, à ce moment-là. Il n'y a pas de raison.
J'essaie de
la raison pourquoi Alex Boissonneau,
en 2007,
qui est professeur des relations internationales et du commerce à l'Université San Martín de Pérez? En tout cas, peu importe, c'était au Pérou. Lui était professeur à ce moment-là. Puis c'est parce que Chavez faisait jaser parce qu'il avait fermé des médias qui étaient trop critiques de son régime au Venezuela, entre autres Radio Caracas Télévision, qui avait été fermée. L'excuse, c'était « Ah, ils incitent à la violence ». C'est supposément ça, là. Donc, Alex Boissonneau avait écrit un long texte pour défendre Hugo Chavez, nous dire comment c'était un grand homme et surtout pas un despote, et que finalement, c'était justifié, cette censure-là, parce que la liberté d'expression, c'est pas une liberté individuelle, ça devrait être une liberté qui est collective. Donc, c'est pour le bien commun. Et si la liberté d'expression ne répond pas au bien commun, là, j'extrapole sur ce qu'il dit, là, mais si la liberté d'expression ne sert pas le bien commun, ben la censure devient correcte.
Et juste à côté, un magnifique texte d'Alain Dubuc qui regrette que Radio X n'ait pas été fermé par le CRTC. C'est du fucking bonbon. Candy, candy for the eyes.
Allez, ça fait pas longtemps.
Ça, bien entendu. Ben non, ça fait pas longtemps.
Ça fait pas longtemps. Heureusement, on s'est éloigné
2007,
de ça.
Ça fait pas longtemps.
Non, on s'est éloigné de ça, heureusement, mais...
Mais eux vont dire, Doom, que ça fait longtemps. Mais ça fait pas longtemps.
Non, ça fait pas longtemps. Mais ça, c'est 2007, puis je vous rappelle que 9 ans plus tard, il louangeait Fidel Castro lorsqu'il est décédé. Fait que quand est-ce qu'Alex Boissonneau est devenu de droite, on cherche encore exactement.
Il nous reste un petit 5 minutes. On va ouvrir les lignes en revenant. Let's go. 418-670-9098. Et vous êtes dans Morel Live.
Toute l'équipe de Morel Live.
Morel.
De retour dans un instant.
Live.
Oui, monsieur.
Radio.